que je m'habille tout en noir. Mais oui, je ne suis pas un ange. J'aime les fourrures et les bas de soie. Tant pis pour celles que ça dérange. Chaque soir, j'ai un homme chez moi. Les dames de la poste s'en vont par trois. En quittant la poste à 6h03, les dames de la poste, dans leur lit froid, rêvent de timbre poste, tandis que moi, je fais des rêves de caresses, je fais des rêves de jeunesse. J'aime la vie, j'aime l'amour, et je sais qu'on trouvera un jour en remis les timbres postes et les mandats, toujours fidèles au poste, à 6h03. Les dames de la poste, les bras en croix, mortes dans leur poste.
Écrit du paradis où je trouve que la terre c'est très joli, puisque c'est vrai faut bien que je le dise. Je vais vous mettre mon cœur à nu, je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors comme j'avais un copain, je crois que c'était un américain, il m'a fait monter à l'anglais. Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard. Je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France. Paraît qu'il faut plus en parler. Il y en a que ça gêne aux entournures. Je me souviens des manucures. Je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais il y a une chose que je peux vous dire, paraît qu'on veut vous faire élire, c'est vrai, sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord, de votre photo que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça, ils m'ont emmené. Je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? pensaient qu'ils voulaient me faire.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour une émission estivale. Et ce soir, Jean-Mathias va nous présenter une émission un livre de Christine Ross, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un livre qui s'intitule La forme commune, sous-titré La lutte comme manière d'habiter. Ça a été édité chez La Fabrique. Et en 2023, donc on est pile dans l'actu. Comme d'habitude, José qui s'est décarcassé pour nous trouver des morceaux adaptés et pertinents par rapport au bouquin, vient de nous diffuser un morceau intitulé La Commune de Renegade Instruments, un groupe grec de toute évidence, un morceau de 2009. Et donc Jean-Mathias, c'est toi qui vas nous présenter ça. D'après la quatrième de couverture, la thèse de Christine Ross, mais tu n'as peut-être pas commencé par ça, je ne sais pas. Ce serait que d'une manière assez évidente quand l'État recule pour différentes raisons, comme c'est le cas aujourd'hui dans de... Enfin, ça pourrait être discuté aussi, mais bon, comme c'est apparemment le cas dans de nombreux pays actuellement, des formes d'organisation plus locales se mettent en avant, du moins se constituent, et commencent à s'organiser. Et ça, c'est ça qu'elle va appeler les communes, en quelque sorte. Et vu les exemples qu'elle prend, ça va être des luttes contre, justement, des luttes locales contre, par exemple, des extensions d'aéroports, des extensions de tunnels, des centrales nucléaires, tout un tas de trucs, où finalement les gens s'organisent plus ou moins localement et commencent à essayer d'instaurer un commun là où il a été détruit, peut-être.
Le lien, alors je vais revenir là-dessus, hein, mais le lien sur la forme commune, effectivement, c'est souvent comme ce que fait Christine Roy, c'est sa tentative pour essayer de tirer une espèce de lien historique, politique et imaginaire, je dirais, et pratique en même temps, entre la commune de Paris, puisque c'est un sujet qu'elle connaît bien, sur lequel elle a déjà publié pas mal, et puis les ZAD aujourd'hui, c'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes notamment, mais pas seulement, et d'essayer de montrer comment, effectivement, on peut trouver une forme de vie commune entre ces deux pôles-là, ce qu'elle propose d'appeler la forme commune. Mais avant ça, si tu veux, alors le bouquin est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Alors moi j'ai lu ce livre-là. Alors, comme souvent avec Christine Roy, c'est un livre qui est assez brillant. Qui est très stimulant, très 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 informé, c'est même assez impressionnant. En fait, je dois dire, en 150 pages, la densité qu'elle arrive à placer. Et en fait, on pourrait, et c'est pour ça que ça résonne de manière un peu spéciale aujourd'hui, parce que c'est presque une forme de manifeste des soulèvements de la Terre qui ont été dissous hier, si tu veux, en Conseil des ministres. Et alors, bon, c'est difficile de parler d'un manifeste à propos des soulèvements de la Terre, mais clairement, en fait, on a dans ce texte-là, sur la forme commune, une espèce de réflexion, en tout cas, sur le type de mobilisation politique et le type de projet politique dont sont porteurs, notamment les soulèvements de la Terre. Et dans le rapport qu'ils ont, alors à la fois, si tu veux, à la lutte contre des projets d'État, et leur attachement justement à des lieux et aux formes de vie qui s'y inventent dans la lutte, par la lutte et donc contre l'État. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors bon, pour les soulèvements de la Terre, donc c'est ce mouvement qui a été fondé dans la foulée du succès de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, après l'abandon et le recul historique quand même de l'État sur ce projet d'aéroport qui remonte aux années 70, je rappelle, et elle refait l'historique de ça. Il y a donc ce mouvement des soulèvements de la Terre qui s'est pensé comme une espèce de collectif, d'association, de collectif, c'est un collectif de collectifs, avec l'idée de développer des formes de lutte, alors axées évidemment d'abord contre les grands projets, donc avec un engagement écologiste radical direct et identifiable tout de suite. Avec l'idée aussi d'articuler au fond des formes de militantisme extrêmement différentes, associatives, politiques, anti-politiques, paysannes notamment, et avec l'idée d'essayer de trouver des manières de composer en fait avec les méthodes, les pratiques militantes, les idéologies, les identifications, les différents milieux sociaux aussi qui sont brassés dans ces luttes-là. Et de ce point de vue, les soulèvements de la Terre représentent, à mon avis, c'est une des tentatives les plus intéressantes aujourd'hui de repenser en fait des luttes sociales et politiques de manière assez radicale dans une confrontation plus ou moins directe à l'État. Alors, il y a la forme spectaculaire de Sainte-Soline avec l'affrontement aux forces de police, enfin décrété par les flics en l'occurrence. Mais derrière, il y a beaucoup 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 d'autres choses. Et je pense que c'est effectivement, voilà, il y a une espèce de télescopage là entre la sortie de ce petit livre de Christine Roy et puis l'actualité politique et sociale avec un appel quand même à la vigilance autour de ce qui va se passer suite à cette dissolution hier. Hein. Donc voilà, alors on trouve un petit peu tout ça dans ce livre de Christine Ross. Alors, c'est un livre qui se présente comment ? D'abord, il y a une espèce de mise en perspective de bornage historique, je dirais, de bornage historique, et qui va, en fait, qui part de la Commune de Paris, donc 1871, qu'elle fait aller, qu'elle fait traverser, en fait, au fond, un siècle complet, jusqu'au mouvement du Larzac. Qui est lui-même contemporain, elle le rappelle, ça c'est moins connu en France, mais le mouvement du Larzac est connu, hein, sur la réappropriation du plateau contre le projet de base militaire. Et c'est un mouvement qui est contemporain, ou quasi contemporain, de mouvements identiques, alors de lutte déjà contre des projets d'aéroports, notamment au Japon et au Canada. Alors c'est les deux exemples qu'elle prend, c'est le deuxième chapitre, là c'est le compte des trois aéroports, nous dit-elle. Donc voilà, donc elle lit un petit peu ça. Donc c'est-à-dire que tout ça joue autour de 1970 à peu près, donc après 68, et ça joue autour de dans les années 70 avec des projets pharaoniques de développement de zones aéroportuaires un peu partout dans le monde, ou là base militaire, hein, pour le Larzac. Et il y a en fait quelque chose qui joue à ce moment-là. C'est évidemment là aussi que va jouer le projet de Notre-Dame-des-Landes. Hein. C'est à ce moment-là en fait qu'il émerge, ce projet d'aéroport autour de Notre-Dame-des-Landes. Et donc il y a ce siècle-là, là, de 1871 à 1970, en passant par 68 évidemment, qui est en fait le siècle du capitalisme triomphant pour elle, du capitalisme colonial, du capitalisme industriel, hein, qui va en quelque sorte borner, quadriller, exploiter les ressources, le travail, la terre, les hommes, de manière optimiste, dirons-nous. Et puis, à partir de 1970, ce truc-là s'enraye. Ce truc-là s'enraye, c'est-à-dire que y a les mouvements de contestation, d'émancipation liés à 70, à 68, puis après, au cours des années 70, il y a l'émergence de l'écologie politique, et donc, en fait, la prise de conscience et puis la certitude, en fait, que ce système du capitalisme industriel et la coupe réglée qu'il impose à l'ensemble des humains et de la planète... est condamné, et qu'il n'y a pas de, il y aura pas en fait, hein, de croissance infinie, il y aura pas d'exploitation et de rentabilisation de la terre comme capital à l'infini, ça ne marchera pas. Et en fait, ça effectivement, ça commence cette prise de conscience et les luttes et la réorganisation finalement des mouvements politiques à partir des années 70 va partir de ce présupposé là. Et c'est ça qu'on retrouve justement donc en germe, il y a une chronologie là-dedans qu'on va retrouver en germe et qui va se réaliser, qui va aboutir notamment avec le mouvement de lutte de Notre-Dame-des-Landes qui est une première victoire, une victoire d'après elle fondamentale, hein, contre ce type de projet, contre le type de capitalisme et contre le type d'alliance et de pacte passé entre l'État et le capitalisme aussi autour de ce projet aéroportuaire. Et au fond, Notre-Dame-des-Landes et les soulèvements de la Terre, c'est finalement un des héritages, hein, qu'on peut dire, de ce tournant, de cette bascule qu'elle situait au niveau des années 70, donc 1970 pour le coup, sur la prise de conscience du caractère vain et pour le coup, alors autodestructeur, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais là pour le coup c'est une autodestruction, je dirais, du point de vue du vivant, hein, de la possibilité même de la vie humaine, portée par le capitalisme à l'échelle de la planète. Bon, donc il y a cette chronologie là, et alors ce qui l'intéresse évidemment là-dedans, c'est d'essayer. Christine Ross est une historienne un peu étrange, c'est-à-dire qu'en fait elle fonctionne avec des chronologies qui sont rarement linéaires. Là, en l'occurrence, il y a une linéarité, on peut la reproduire. Mais ce qui l'intéresse surtout, elle est héritière des conceptions historiennes de Benjamin, hein, notamment. Donc ce qui l'intéresse, c'est le travail souterrain de forme politique ou de forme de vie avec des projets d'émancipation qui vont émerger en quelque sorte comme ça au cours de l'histoire, comme s'il y avait une espèce de chronologie souterraine, je dirais, hein, des mouvements d'émancipation révolutionnaire qui ressurgit comme ça à intervalles réguliers et qui réactive en quelque sorte des formes de vie, des pratiques et des concepts militants. Lors de mouvements, justement de lutte qui marquent par leur caractère un petit peu exceptionnel, mais qui permettent de rendre visible en fait cette espèce de méta-histoire, pourrait-on dire, hein, une espèce de qui est en dessous. Donc la Commune de Paris, voilà, ça va aller de la Commune de Paris, les luttes contre l'aéroport au Japon. Alors je retrouve le nom parce que on n'en est pas familier. Tu l'as? Sanrizuka. Sanrizuka, ça c'est l'aéroport japonais. Et puis celui au Canada, je vais retrouver aussi. Donc, en passant par mai 68, hein, donc il y a ces espèces de micro-luttes comme ça. Il y a le mouvement du Larzac, bien évidemment. Il y a Notre-Dame-des-Landes. Et il y a ces espèces comme ça d'explosions un peu qui paraissent locales, qui paraissent situées, limitées dans le temps, mais qui, en fait, d'après elles, contribuent à dessiner une espèce de paysage politique, hein, de rapport au temps différent, de rapport à l'espace différent et de rapport à la politique qui soit aussi différent. Et le point commun entre ces différentes luttes là sur lesquelles elles s'appuient, alors le mai 68 qui l'intéresse, elle a beaucoup travaillé sur mai 68, on avait parlé de son livre ici, mai 68 et ses vies ultérieures, hein, donc ça, qui dit bien en fait cette idée comment un événement peut comme ça résonner en quelque sorte, hein, de manière un peu discontinue sur des décennies, sur des périodes beaucoup plus longues et aller bien au-delà de la fin ou de la chronologie qu'il cantonne dans le temps. Ce qui l'intéresse dans mai 68, c'est un moment très particulier, c'est la commune de Nantes. Puisque Nantes est en fait la seule ville de France où on a eu une espèce de... Et évidemment, c'est pas sans lien avec l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. C'est le seul endroit en France où on a eu, pendant quelques semaines, l'émergence d'une espèce de commune, au sens où en fait les ouvriers de Sud Aviation, notamment en grève et occupant leurs usines, ont mis en place une forme d'administration qui s'est appuyée sur les organisations syndicales et politiques paysannes locales, et qui a permis en fait pendant une quinzaine de jours d'alimenter les grévistes à partir de la production agricole des environs de Nantes. C'est passé notamment par un mouvement qui est la JAC, les Jeunesses Agricoles Chrétiennes, hein, très développé dans l'ouest de la France et notamment autour de Nantes.
D'accord, c'est pendant l'agricole de la JOC, j'imagine.
Tout à fait. Donc, lié à la CFDT, bien évidemment, la CFDT locale. Donc tout ça, il y a tout un tas de déterminants sociaux, historiques et culturels qui sont locaux. La présence du catholicisme social, notamment dans l'ouest de la France, autour de Nantes. L'émergence de certains leaders agricoles. Alors, elle parle beaucoup de Bernard Lambert. Alors, c'est pas le Lambert des lambertistes, mais Bernard Lambert est une figure de la Jacques notamment, et qui a écrit un texte qui pourrait les fondamentales, justement c'est en 70, hein, qui a été vendu à plusieurs dizaines de milliers, plus de 100 000 exemplaires quand même, hein, c'est la place des paysans dans la lutte des classes, hein, 1970, et où il revient notamment sur cet épisode de la commune de Nantes et sur la manière dont ouvriers et paysans et étudiants ont réussi cette espèce d'alignement des planètes assez improbable.
C'est un rêve humide de maoïste, ça.
Ah, c'est absolument... Alors, à la fois maoïste et en même temps catholique sociaux, sédétiste de l'époque, deuxième goutte autogestionnaire, tout ce que tu vois, mais zadiste Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'en fait Notre-Dame-des-Landes est évidemment aussi héritière, je sais pas comment il faut dire, de ce moment historique là. C'est un cas unique en France, hein, elle le souligne quand même, c'est-à-dire que tu as une forme de d'autogestion locale qui se met en place à l'initiative notamment des femmes de grévistes. Alors là, t'as une division du travail très très claire encore présente à ce moment-là, qui en fait s'organise pour la garde des enfants, pour l'alimentation, mais aussi pour le ramassage des ordures et tout un tas en fait d'administrations en fait liées au quartier ouvrier de la ville de Nantes, en grève et en occupation d'usines au cours de mai 68. Et donc ça, t'as cette espèce d'alignement. Et alors, je ne sais pas si elle a raison, mais elle met ça, en fait, elle, pour elle, ce texte-là de Bernard Lambert, elle dit, au fond, c'est probablement, et peut-être que, avec le recul, on finira par considérer ce texte-là comme un texte aussi important que Les damnés de la terre de Fanon ou que Le deuxième siècle de Simone de Beauvoir. Parce qu'il y a une espèce, Fanon comme espèce de texte emblématique du mouvement de la décolonisation, bien évidemment, Le deuxième siècle sur comme texte fondateur de l'émergence du féminisme politique, et là comme effectivement une espèce d'émergence de projet politique. Alors évidemment qu'il y a les Mao dans l'équation. Évidemment qu'il y a les Mao dans l'équation, mais évidemment que si ça se réduit absolument pas aux Mao, et que les Mao à eux seuls ne sont pas comptables ni responsables de la commune de Nantes, si tu veux. Mais c'est une manière pour... Alors le point important pour elle, c'est c'est le rapport à un lieu, évidemment. C'est le rapport local, c'est le projet d'administration, de contre-administration, pourrait-on dire. Alors, à faire une distinction plus tard, qui n'est pas inintéressante, je ne sais pas si c'est tenable jusqu'au bout, mais l'idée que, au fond, dans la forme commune dont elle parle, il y a l'idée d'un projet qui est jamais un projet de gouvernement et qui est un projet qui se limite, ou en tout cas qui s'auto-limite au maximum à une ambition d'administration. Et l'idée n'est pas de créer effectivement un gouvernement, ni donc de responsabiliser des mandatés, ou de prendre des décisions, des décrets, ou d'étendre un pouvoir politique, en fait, une autorité politique quelconque, mais d'administrer au plus près les choses et les tâches. Donc on retrouve des vieux classiques aussi du communisme, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, ce qui l'intéresse, c'est qu'évidemment, ce sont des formes de vie qui se mettent en place en pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la théorie, mais qu'on a effectivement des solutions qui sont trouvées localement avec un rapport d'attachement à un lieu, à une terre en particulier, ça va développer beaucoup là-dessus, j'y reviendrai, avec ce projet d'administration et des précédents historiques et des moments historiques qui incarnent ça et qui permettent de tracer un fil et puis d'essayer de penser en fait et de réfléchir à ce qui se passe sur ces mouvements de lutte un peu particuliers qui effectivement sont atypiques parce qu'ils ne rentrent pas dans les grandes théologies révolutionnaires, ils rentrent pas dans les grands systèmes historico-politiques par lesquels on lit les luttes, on arrive à proposer une lecture, une interprétation des luttes ou des mouvements politiques.
Mais c'est pas des partis, c'est pas des syndicats, c'est pas des espèces de corps institués comme ça
Même si tu trouves évidemment des tas de morceaux de ça dedans.
Mais des morceaux justement.
Bien évidemment. Mais c'est pas articulé comme ça. Voilà. C'est jamais articulé comme ça, et c'est évidemment ça qui l'intéresse aussi. Donc cette forme commune dont elle parle, c'est à la fois cette espèce, je dirais, de chronologie souterraine, et non linéaire, qui part de la Commune de Paris jusqu'à Notre-Dame-des-Landes, mais on pourrait malheureusement aller jusqu'à la dissolution d'hier, pourquoi pas, d'une certaine manière, ça a du sens, cette affaire-là, en passant donc par mai 68 à Nantes, en passant par les luttes au Japon en 66 sur l'aéroport dont le nom m'échappe encore, en passant par le Canada. En passant par ces différents moments de confrontation politique entre des militants et des non-militants, et puis en face, un capitalisme d'État qui, lui, pour le coup, est assez relativement facile à identifier. Voilà. Donc la forme commune dont nous parle Christine Ross, c'est cela. Alors après, on va peut-être faire une petite pause, et je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le contenu qu'elle essaye de mettre là-dedans.
Oh.
soir, c'est Jeudi Noir qui reprend sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, 89.4. Et donc, Jean-Mathias nous présentait un livre de Christine Ross, publié chez La Fabrique, qui s'intitule « La forme commune, la lutte comme manière d'habiter ». Vous venez d'entendre « Forme nouvelle ». C'est le nom du groupe, José ?
Oui.
Et c'est donc « Forme nouvelle », et c'est le groupe, le nouveau morceau s'appelle « Desire ». Ou désir, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas d'accent sur le E, donc José est vraiment
y
pas assuré.
Il y a deux à la fin de désir en français, je suis désolé.
Ouais, mais il y a un accent sur le premier E.
Il y a un E à la fin,
c'est desire. D'accord, c'est desire, ok, je l'avais bien dit en fait. Voilà, mais tu m'as perturbé parce que entre forme nouvelle et puis ensuite un titre en anglais, moi je comprends plus rien quoi, ça suffit. Hein. Et donc c'est un groupe français du début des années 80 et en plus maintenant ils contestent mon orthographe, non mais ça suffit quoi. Oh là là là. Alors et donc Jean-Mathias nous parlait avant les contestations insupportables de José de la forme.
J'ai pas voulu intervenir, moi je.
Oui oui non mais je vois ça, tu prends pas un article. C'est la Suisse de Jeudi Noir.
Moi j'ai pas de.
Voilà.
Et donc la forme commune et donc comment justement Christine Ross. Quelque sorte à travers l'histoire, va essayer de repérer l'émergence discontinue de formes d'organisation politique, mais qui ne sont pas politiques au sens où nous on l'entend habituellement, c'est-à-dire que ça ne va pas se constituer comme un parti, ça ne va pas se constituer comme un syndicat, ça ne va pas se constituer comme ce que nous on appelle souvent un mouvement politique, ça va prendre d'autres formes. Ce n'est pas pour autant que c'est inefficace. Et comment justement, à l'intérieur de ces formes, les gens vont lutter contre en particulier le capitalisme d'État qui est mondial et qui comment dire, mais qui n'est pas toujours vainqueur, contrairement à ce qu'on pourrait craindre. Et donc, hors antenne, on discutait justement du communalisme parce que c'est pas ça, de Murray Bookchin, c'est-à-dire qu'il s'agit pas parce que malgré tout, c'est des thèses qu'on peut trouver chez Bookchin où il va dire il faut que des communes s'organisent pour faire contrepoids à l'État. Et c'est en partant d'en bas et au niveau communal qu'on va pouvoir lutter contre l'État. Mais tu me disais que pour elle, en fait, ça c'est déjà politique.
D'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que les formes qui l'intéressent sont toujours des formes qui sont non pas en réaction, je vais y venir, mais qui se créent. C'est des formes politiques contre l'État systématiquement. Hein, la commune, c'est le cas de la Commune de Paris, c'est le cas de mai 68, c'est le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est le cas des autres projets, des autres luttes contre les projets d'aéroports dont elle parle, Japon, Canada. Mai 68. Attention, c'est le cas de mai 68 à Nantes, hein, sur le cas dont elle parle. Alors elle s'appuie. On pourrait discuter de ça évidemment. Est-ce qu'il y a un projet de doubler ou de démantèlement de l'État dans mai 68, c'est compliqué cette affaire-là, mais en tout cas, ce sur quoi elle s'appuie, ce sont les témoignages du préfet de l'époque, qui lui a vu tout de suite, en fait, ou en tout cas a formulé les choses de manière très très claire. Alors, c'est un témoignage de préfet, donc si tu veux, mais c'est intéressant, parce qu'elle cite ce témoignage-là, et il explique que pour lui, c'était évident, en fait, qu'il y avait effectivement une tentative poussée, aboutie, voilà, de débranchage, en quelque sorte, hein, de la forme État, pour le coup.
Opposé à la forme commune.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de, voilà, opposé à la forme commune, et que, en tout cas, lui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que ça suffit, si tu veux, pour établir le fait ? C'est, bon, on pourrait en parler longtemps, mais c'est intéressant, si tu veux, comme manière de voir ça. Alors oui, elle parle de Bookchin à un moment, hein, effectivement, mais effectivement, on n'est pas ici dans une espèce de programme politique, si tu veux. C'est pas un programme politique, c'est même pas un programme politique anarchiste, en réalité. C'est anarchiste, je dirais, de fait, puisqu'il s'agit effectivement de s'opposer à l'État et de s'opposer à l'État, y compris dans sa légitimité, je dirais, de principe, c'est-à-dire, tu vois, d'administration, d'organisation, d'arbitrage, des litiges, des propriétés, voilà. Donc, il s'agit de débrancher tout cela. Donc, c'est fondamentalement anarchisant. Elle pense ça il a dit qu'il faut cette forme commune, il faut l'avoir plutôt comme une tendance, comme une orientation en quelque sorte. Hein. C'est une orientation plus qu'un programme. Et le communalisme est déjà un programme un peu trop verrouillé d'une certaine manière.
Un peu trop
manière.
Déterminé. C'est vrai que Bookchin fait un trop programme, ça c'est clair.
Alors est-ce que ça suffit à disqualifier Bookchin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est
juste pour préciser le projet.
Mais c'est pas de ça dont elle parle. Hein. Voilà. Alors peut-être dire quelques mots quand même de le troisième chapitre là, dont le titre résume, je trouve, pour le coup, assez bien le propos et le contenu hein, qu'elle donne et qu'elle essaie de donner à cette forme commune dont on a parlé. Alors les quatre termes qu'elle retient, c'est défense, appropriation, composition et restitution. Et les quatre notions sont présentées de manière assez subtile et assez convaincante, je dois dire. Alors, avec l'idée que défense, appropriation, composition et restitution sont justement des caractéristiques politiques qu'on retrouve dans tous les exemples qu'on a évoqués jusqu'à présent. La défense, il s'agit aussi bien dans la Commune de Paris que à Nantes. Alors, à Nantes, on est sur un cas un petit peu hybride parce qu'elle nous dit que finalement c'est le Nantes, c'est au fond une espèce de moment où ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de profondément nouveau, c'est l'alignement paysan, ouvrier, étudiant. Et qu'en même temps, mai 68 est un moment un peu hybride parce qu'on est en fait sur la dernière occurrence, la dernière vraie occurrence de l'occupation d'usines. Et c'est-à-dire le dernier moment où on voit dans l'espace politique la classe ouvrière des ouvriers d'industrie se manifester justement comme une force révolutionnaire à part entière sous cette forme d'occupation d'usines. Et après, d'une certaine manière, ça décline cette affaire-là. Elle trouve ça très, ce qu'elle trouve intéressant, c'est le parallèle entre Larzac et le mouvement des LIP, hein, au même moment. Et elle dit, au fond, sur le moment, effectivement, on a vu les LIP comme une espèce d'avenir, en quelque sorte, du mouvement ouvrier, hein, voilà, d'avenir autogestionnaire, du mouvement ouvrier. Et en fait, elle se dit, avec le recul, elle se demande si, en fait, c'était pas plutôt le crépuscule, du mouvement ouvrier, issu, justement, du 19e siècle.
Pour les éditeurs et les auditrices, alors, jeunes, les LIP, voilà. Qui sauraient pas qui sont les LIP, qu'est-ce que ça représente. C'était une usine de montres, française.
Dans le Jura.
Un peu de luxe, mais de bonne qualité, en tout cas. L'usine c'était sous Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, et on a annoncé la fermeture de l'usine, et les ouvriers ont essayé de reprendre en main l'usine et continuer à fabriquer les montres qu'ils fabriquaient auparavant, mais aussi de les commercialiser, de les vendre pour essayer de s'approprier l'usine. Et la rumeur raconte, j'ai lu ça, qu'il paraîtrait que Valéry Giscard d'Estaing avait dit à l'époque qu'il faut surtout pas qu'elle réussisse, et qu'ils avaient tout fait pour couler cette espèce de tentative de réappropriation de l'instrument productif par les ouvriers.
Alors c'est après 68 évidemment, et ça a été la lutte emblématique du projet autogestionnaire de la CFDT de l'époque, là encore hein, c'est la CFDT qui est à la manœuvre là-dessus, et c'est une lutte emblématique parce qu'on est après 68 et parce qu'effectivement elle est simultanée, contemporaine hein, de la lutte pour le Larzac. Et en fait voilà, il y a ces espèces de croisements en quelque sorte hein, de croisements des courbes, on pourrait dire des courbes historiques d'après elle. Donc le point important, Je reviens sur les quatre termes là qu'elle met en avant: défense, appropriation, composition, restitution. La défense, la défense, c'est évident dans le cas de la Commune de Paris. Hein, il s'agit de défendre la ville, la ville contre les Prussiens d'abord, puis ensuite contre Versailles. Et elle dit que c'est important de penser ça en termes de défense parce que la défense est un terme qui, d'après elle, est plus efficace politiquement et correspond mieux à ce qui se passe dans ces formes de villas que celui de résistance. Elle dit que quand on parle de résistance, en fait, on accepte en fait une agression, on accepte l'agenda de l'adversaire. Et l'agenda de l'État. Le fait de défendre quelque chose, c'est il y a une forme de voilà, on est dans une réaction immunitaire quasi naturelle, on peut dire de ce point de vue là. Alors comment elle formule ça? Bon, je dis ça, c'est page 72 par exemple, les formules qu'elle donne, c'est ça. En quel sens peut-on dire que la défense est plus génératrice de solidarité que la résistance? La résistance, nous dit-elle, signifie que la bataille, à supposer qu'elle ait eu lieu, a déjà été perdue. Et qu'on peut seulement s'efforcer de résister désespérément à l'immense pouvoir qu'on attribue à l'autre camp.
La défense, en revanche, signifie qu'il y a déjà une chose dans notre camp qu'on possède, qu'on aime, qu'on chérit, et qui mérite donc qu'on se batte pour elle. C'est pas idiot comme distinction, et d'ailleurs, c'est pas inintéressant, y compris historiquement, quand on voit la valeur symbolique qui va être attachée respectivement à ces différentes notions. Si tu vois par exemple le sens et l'espèce de l'importance que prend le mythe de la résistance dans le récit républicain français, l'après-guerre, hein, le récit de la cinquième, c'est intéressant de ce point de vue-là. Parce qu'effectivement, t'as une redistribution, effectivement, tu vois, des choses, des légitimités politiques qui s'appuient aussi sur ce type de concept-là. Alors, là, en l'occurrence, c'est un discours d'État, hein, donc c'est un peu différent. Mais je trouve que cette distinction-là est pas inintéressante.
Sachant que le mythe de la résistance a aussi été beaucoup repris par tous les partis gauchistes.
Bien sûr, bien sûr.
Les années 60-70, mais qui, eux, avaient aussi en ligne de mire la conquête de l'État.
Alors, elle remarque aussi, évidemment, une des références qu'elle prend. Alors, c'est pas la forme commune, hein, mais en fait, c'est un cousin. Le cousin qu'elle voit émerger aussi dans les années 70, c'est les Black Panthers. Et elle dit, c'est pas inintéressant non plus que les Black Panthers se pensent au départ comme un mouvement d'autodéfense. Hein. Il y a quelque chose qui vaut la peine d'être défendu et que nous avons. Hein, qu'on ne nous a pas retiré. Il ne s'agit pas effectivement de lutter contre la submersion. Hein. On n'est pas dans une mentalité un peu obsidionale, là, effectivement. Mais il s'agit effectivement de valoriser, de défendre, d'entretenir, de maintenir quelque chose de précieux auquel on tient.
Là encore, pour les auditeurs, auditrices qui ne sauraient pas exactement, les Black Panthers, donc c'est un mouvement afro-américain qui naît dans les années 60 à partir d'un homme qui s'appelle Huey Newton, qui, en étudiant les textes de loi en Californie, s'aperçoit qu'on a le droit en Californie d'observer l'action de la police quand elle arrête des gens avec des armes, pour peu qu'on soit à une distance raisonnable et que les armes que l'on porte soient en sécurité sécurité mise et tout un tas de trucs. Et à partir de là, ils vont faire des groupes d'autodéfense. Et donc, vous avez des hommes noirs en uniforme qui observent l'action de la police.
Dans les quartiers
américains. Alors évidemment, il va y avoir tout un tas de péripéties parce que le gouvernement californien va s'empresser de supprimer cette vieille loi qui subsistait quelque part. Mais c'est vrai que ça part d'un truc d'autodéfense, du type autodéfense des citoyens afro-américains qui sont souvent assassinés par la police.
Il y a une très bonne émission de Jeudi Noir. Hein,
il y a longtemps.
Elle est disponible dans les archives le site gurdu.org. Alors, donc, sur cette idée de résistance, là, donc, je la cite toujours, elle me dit, la résistance, tout simplement, consiste à laisser l'État fixer l'ordre du jour. En synthèse, hein. La défense, en revanche, est ancrée dans une temporalité et un ensemble de priorités qui sont fixées par la communauté locale en construction. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'elle propose, elle, de construire cette distinction. Et elle ajoute une autre dimension derrière qui, je pense, effectivement, est intéressante et riche, c'est que dans cette notion de défense, il y a l'idée que, en fait, la défense est une politique qui pose des normes et qui affirme des valeurs. Et c'est quelque chose auquel elle tient, ça, et c'est quelque chose dont elle a effectivement déjà parlé dans ses études sur la commune, parce que elle dit que défendre quelque chose, c'est affirmer qu'on est soi-même porteur de valeurs et qu'on peut affirmer quelque chose et des valeurs qui, justement, peuvent être opposées aux valeurs marchandes, pour le coup. Et l'exemple qu'elle prend, parce que c'est un de ses points auxquels elle tient, c'est la Commune de Paris, là, encore une fois, et la manière dont, notamment à l'initiative de Courbet, on va mettre en avant, au moment de la Commune de Paris, ce que les communards eux-mêmes vont appeler le luxe communal, c'est-à-dire en fait la valeur suprême qui consiste à faire entrer l'art dans l'espace commun, dans l'espace public, c'est-à-dire à créer à la fois alors c'est pas un soviet, c'est pas un conseil, mais c'est, je sais plus quel est le terme qui est retenu, mais en fait un corps commun aux artisans et aux artistes, hein, c'est-à-dire à casser la hiérarchie entre artisans et artistes, hein, pour effectivement penser une utilité, penser l'art comme d'utilité publique, en quelque sorte, et comme d'utilité commune. Et affirmer ça comme justement les valeurs et le type de valeurs dont la commune est porteuse. Hein, c'est-à-dire penser le beau dans le quotidien comme la valeur communale par excellence. Hein, et la valeur communarde, pourrait-on dire, hein, par excellence. Et là, il y a quelque chose d'intéressant d'après elle, parce que c'est quelque chose qui est affirmé par les communards et qu'on retrouve d'une certaine manière dans les mouvements qu'elle a cités et qui lui servent un peu de référence, notamment à la ZAD. Notamment à la ZAD, où il y a effectivement ce souci aussi d'avoir une dimension
je dirais pas esthétisante parce que c'est pas ça l'enjeu, c'est pas de faire de la décoration jolie dans le mouvement, mais c'est d'essayer d'explorer en fait la politique et la mobilisation collective comme des formes de création politique en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça fait très bobo 68 armes de formuler les choses de cette manière-là. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas si spéculatif que ça, en fait, cette affaire-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose. Voilà, le fait de sentir qu'on est porteur de quelque chose de précieux, hein, à transmettre et à développer, est peut-être quelque chose d'important dans une lutte politique. Voilà. Et c'est ça hein, dont il est question avec cette histoire de luxe communal et avec ces références justement à Courbet et à Potier. Hein, c'est ce moment-là, hein, ce type de préoccupation. Alors comment elle le formule derrière, parce que si, le mieux c'est toujours d'être concret. Voilà comment elle formule les choses. Voilà, on ne demande pas sa juste part dans le cadre du partage existant du gâteau. Le luxe communal signifie que chacun a droit non seulement à sa juste part, mais à sa part du meilleur. Le luxe communal remet en cause les manières mêmes dont la prospérité est vécue et mesurée, ce qu'une société reconnaît et apprécie, ce qu'elle considère comme richesse et comme bien-être et qu'elle est prête à défendre. C'est ça l'idée qui est derrière. Donc il n'y a pas de lutte, effectivement. Enfin, la force, en quelque sorte, de cette forme commune dont elle parle, c'est justement d'être porteuse voilà, de valeurs qui sont directement en opposition aux valeurs marchandes ou aux valeurs qui sont proposées et imposées en fait plutôt par le capitalisme marchand, hein. Et c'est quelque chose qui est évidemment pour elle crucial. Alors Christine Ross, ouais. Oui, on parle toujours ouais, de la oui. forme commune de Christine Ross.
Ah oui, parce que l'abus de la fabrique, l'abus de pronom personnel nuit à la clarté.
Tout à fait. Donc conclusion de Christine Ross sur ce point de la défense, sur l'importance de la défense plutôt que la résistance, hein, c'est ça comme forme. Défendre le territoire dans une guerre prolongée revient à défendre le projet de vie collective qui y a pris forme pendant sa défense. Nous faisons notre communauté en la défendant. Il y a cette idée là. Alors le deuxième terme, le terme d'appropriation.
On fait peut-être une pause avant de l'aborder.
On peut.
écoutez Jeudi Noir sur la troisième et dernière partie. Jean-Mathias nous présente La Forme Commune de Christine Ross, un livre publié chez La Fabrique, sous-titré La lutte comme manière d'habiter. Et vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre un groupe japonais, Blues Creation, et un album, un morceau qui s'appelle Nightmare. Japon, 1971, donc c'est un live. José a trouvé ça, on ne sait trop comment. On ignore qui l'a corrompu, mais il l'a trouvé. Et donc là, Jean-Mathias, tu, après nous avoir un petit peu.
Tu mets, hein, c'est effectivement sur un festival de 71 au Japon, dans la foulée des luttes contre l'aéroport de Narita dont parle, voilà. Dont parle Christine Ross.
Donc voilà, il est trop fort, José. Et voilà, c'est petits oignons. Et donc, tu nous avais parlé un petit peu de l'insistance que Christine Ross pose sur le terme défense.
Ouais.
Et maintenant, tu disais qu'il y avait un autre terme qu'elle.
Alors, deuxième
qu'elle
terme,
deuxième terme, c'est l'appropriation.
Appropriation, exactement. Alors, appropriation, là, en fait, c'est un terme qu'elle va emprunter à un de ses auteurs de référence, qui est Henri Lefebvre. Alors, Henri Lefebvre. Comment résumer ça en deux mots? Henri Lefebvre est un des auteurs de référence du mouvement de mai 68 en France. C'est un marxiste, on va dire, hétérodoxe, un des premiers à avoir essayé d'appliquer en fait les analyses de Marx à une critique de la vie quotidienne. Il a un séminaire à Nanterre, si je me trompe pas, au début des années 60. Séminaire auquel va participer ou va assister plus ou moins Guy Debord, hein, un des parrains du situationnisme en France. C'est quelqu'un d'important en 68 parce que en fait il va faire le pont en quelque sorte entre le marxisme historique, je dirais, et puis la critique de la vie quotidienne, qui va être une des marques du mouvement de 68, du point de vue étudiant notamment, hein, du point de vue des étudiants, et du point de vue de ses prolongements, de ses prolongements ultérieurs. Donc c'est aussi, alors Lefebvre est quelqu'un d'intéressant parce que c'est à la fois quelqu'un qui a travaillé, critique de la vie quotidienne, hein, une espèce de somme là, dans lesquelles il réinterprète Marx à la lueur du capitalisme tardif, les premières critiques de la société, ce qu'on appelle pas encore la société de consommation, etc. C'est aussi un penseur de l'urbanisme. C'est celui qui a inventé le concept de droit à la ville, notamment. Donc, il pense aussi l'aliénation capitaliste dans l'espace. Hein. C'est non seulement le temps aliéné, le temps de vie, mais aussi dans l'espace, avec toute une réflexion sur la ville, sur l'espace fonctionnalisé. Bon, c'est des thèmes qui sont très, 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 très identifiés à ces années-là. Hein. Voilà, la critique du fonctionnalisme, de la surveillance, du zonage, c'est les grands projets urbains, les villes nouvelles, etc. Tout ça, c'est toute une époque. Et donc, Lefebvre est un des critiques, les plus pointus en fait, hein, de ces tendances voilà, sociales, politiques, économiques des débuts des années 70. Donc, ce terme d'appropriation, elle va le chercher chez Lefebvre, notamment pour penser ce qui se passe dans le rapport au temps et à l'espace dans ces moments de communes politiques dont elle parle. Et elle commence par un témoignage, en fait, c'est la manière dont elle est accueillie à Notre-Dame-des-Landes la première fois qu'elle s'y rend, parce qu'elle a été invitée pour faire une conférence justement sur la commune de Paris par les occupants de Notre-Dame-des-Landes. Elle précise pas l'année, le moment de la mobilisation, mais l'idée c'est d'essayer de voir justement, notamment à partir de cette idée de luxe communal, hein, c'est à la demande des occupants de Notre-Dame qu'elle vient. Et puis elle explique que ça se passe absolument pas comme ça se passe quand elle est invitée pour faire une conférence universitaire habituellement, c'est-à-dire que donc elle explique d'habitude, il y a quelqu'un qui va chercher à la gare, voilà. Ensuite, on lui paye un café, on la laisse s'isoler, se concentrer, elle fait la conférence, voilà. Ensuite, elle répond aux questions, ils vont bouffer, et puis ensuite, dodo à l'hôtel, voilà. Et donc, alors là, pas du tout, en fait, ça prend un temps fou. Elle rencontre des tas de gens sympathiques qui attendent d'autres personnes qui sont pas encore arrivées à la gare de Nantes parce qu'ils sont fait coincés en revenant de manif de machin, et puis qu'on attend celui qui a le camion parce qu'il est allé en fait déposer du matin. Voilà. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Puis arriver sur place, en fait, il y a plein de choses à faire. Il faut qu'elle aille ramener des vaches. Elle aide à ramener des vaches dans un champ parce que il faut les transférer du champ. En passant, il faut qu'elle aide à débourrer des chevaux sauvages qui sont aussi gardés par une des paysannes du coin, etc. Et ce qui fait qu'en fait, la conférence, elle va démarrer, mais après tout ça, d'une certaine manière, quand le soleil commence à descendre un petit peu, ça tombe bien parce que c'est aussi le moment où le pain sort du four qu'elle a pris en photo auparavant. Et donc là, on met les bancs et du coup, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, il y a dans cette temporalité-là, une espèce de temporalité qui est dictée par les tâches communes à accomplir. Voilà. Et ce temps approprié dont elle parle, c'est ça, c'est-à-dire qu'un temps qui n'est pas celui du travail salarié, bien évidemment, qui n'est pas non plus celui d'un temps soumis à des impératifs de rentabilité comptable, à l'heure de travail, mais qui est en fait dicté par des contraintes collectives auxquelles on répond collectivement et qui sont incompressibles. Et qui, du coup, ne sont plus pensées comme des contraintes extérieures, aliénantes, comme ça peut être le cas, évidemment, dans le cas d'un rapport salarié. Donc, il y a, évidemment, dans ce témoignage, donc elle ne fait pas tout sur son témoignage et sur son une espèce d'analyse un petit peu à la hache sur un cas perso, mais son idée, c'est d'essayer de penser ces formes de vie-là, ou ces moments qui sont indissociablement le fait de se réapproprier un espace, mais aussi une forme de les moyens de sa propre subsistance, ça va avec cette affaire-là. Cette notion de subsistance est fondamentale pour elle dans ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment d'arriver à s'autosuffire, mais y compris dans matériellement, du point de vue alimentaire. Et ça dicte des contraintes, ça distribue en fait un rapport au temps, ça distribue des obligations, ça les répartit aussi, en fait, ça oblige à les répartir de manière collective, d'une manière qui est radicalement différente de ce qui se passe, évidemment, lorsqu'on est sous domination capitaliste, que ce soit à la ville ou à la campagne, mais effectivement, dans le cadre d'une agriculture productiviste, c'est le même problème que pour le métro-boulot-dodo. Donc ça, c'est le type de rapport au temps qu'elle met en avant là-dessus. Je vous lis quand même un petit passage qui est un passage intéressant, parce que c'est un passage où... Alors, elle inscrit ça, évidemment, ce rapport au temps, dans quelque chose qu'on trouve aussi bien chez Henri Lefebvre. C'est un des auteurs de référence de Christine Ross, mais il y a aussi William Morris, notamment, le socialisme romantique anglais, de la fin du 19e. Et elle cite, alors notamment, il y a un moment qui m'a intéressé, c'est dans le rapport au temps, c'est un passage de Lefebvre sur la fête paysanne. Ce qui intéresse Lefebvre, au fond, ce sont toutes les formes pré-capitalistes de sociabilité, et qui trouvent notamment dans la vie rurale, dans la vie campagnarde, qui est sans doute évidemment idéalisée, fantasmée, mythifiée, etc. Mais où il trouve des ressources de formes de vie ou de relations sociales et de production. De production de l'espace et des moyens de subsistance qui sont nécessaires, qui trouve des ressources qui lui semblent, elles, intéressantes. Et toujours dans cette logique, on défend quelque chose qu'on n'a pas perdu, d'une certaine manière, qui est disponible parce que ça a été là, et d'une certaine manière, c'est encore c'est réactivable, cette affaire-là. Donc c'est ça qui intéresse Christine Ross et Lefebvre, en l'occurrence, dans ces formes de sociabilité communale, paysanne. Et le moment de la fête paysanne, je vous lis le texte parce qu'il est, je le trouve intéressant, après une petite anecdote personnelle aussi derrière là-dessus. Comme William Morris avant lui, dit-elle, page 92, Lefebvre formulait sa critique du monde moderne au nom des sociétés pré-capitalistes, pré-modernes, au nom peut-être du rire paysan tonitruant, si éloigné pour lui d'un sourire ironique et lasse, cette éruption du rire spontané, joyeux, qui lui a donné envie d'écrire sur Rabelais. Dans un chapitre extraordinaire du premier volume de la Critique de la vie quotidienne, Lefebvre évoque l'épanouissement humain du passé médiéval. Dans la fête paysanne, chaque membre de la communauté allait pour ainsi dire au-delà de lui-même et tirait de la nature, de la nourriture, de la vie sociale, de son propre corps et de son esprit, d'un seul coup, toutes les énergies, tous les plaisirs, tous les possibles. Fin de citation. La fête paysanne n'était pas un moment exceptionnel dans une existence par ailleurs morne. Ce n'était rien de plus et rien de moins que l'intensification de la plénitude de la vie quotidienne elle-même. Nouvelle citation de Lefebvre. La fête ne se distinguait de la vie quotidienne que par l'explosion des forces lentement accumulées dans et par cette vie quotidienne elle-même. Fin de citation. Alors, il y aurait pas mal à dire sur un passage de ce genre-là, sans doute avec la part d'illusion, d'ironie qu'on peut faire là-dessus, etc. Mais je trouve ça
à mon avis, assez emblématique de quelque chose qui traîne un peu dans l'air du temps, aussi bien les mouvements militants, pas simplement chez les soulèvements de la Terre. Voilà, petite anecdote personnelle, c'est sur, je pense que ça devait être la 10e ou 11e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Arrivée de manif, fin de manif à Place d'Italie, on rentre avec des camarades voilà, de Champigny, on prend le métro, et on s'est retrouvé dans le métro, un métro wagon bondé, avec un groupe qui sortait de la manifestation, costumé, avec des costumes un peu étonnants, tu vois, type effectivement... type carnaval médiéval, tu vois, des espèces de trucs un peu comédia dell'arte, etc. Des tambourins, des chants, voilà. Ultra efficace, ce qui fait que t'as le wagon qui commence à se marrer, qui commence, voilà. Et ça a fini par un moment qui était assez troublant, où en fait, ils ont repris une vieille chanson occitane, en occitan, hein, sur le carnaval, en fait, à Dieu Paori Carnevas. Et c'était un moment assez exceptionnel, en fait. C'est difficile à raconter, parce qu'en fait, sorti du contexte, quand il n'y est pas, t'as l'impression d'avoir une espèce de truc un peu exotique. Mais, en fait, on s'est un peu tous regardés, si tu veux, dans le métro, avec un côté assez... ouais, un peu médusé, en fait, de ce moment-là. Parce que je pense qu'on touchait à quelque chose qui ressemblait un peu à ça, si tu veux. Tu vois, ou à une espèce, ou à ce type d'énergie-là, ou à ce type d'enthousiasme-là, ou à ce type de relation-là, en tout cas. Alors, dans un contexte très spécial, wagon de métro, sortie de manif, mouvement collectif très fort, etc., etc. Mais il n'empêche que, en fait, ce truc-là faisait mouche. Alors que c'est complètement, si tu veux, intempestif pour le coup, comme esthétique, comme choix, comme moment. Et voilà, il me semble que c'est en tout cas un truc qui est pas complètement hors du temps ou hors de l'époque. Alors avec encore une fois tous les bémols et toutes les effectivement toute la prudence qu'on peut mettre autour de ça, hein. Mais sur en tout cas cette espèce de fond, je dirais, hein, de fond de sociabilité communaliste, pourrait-on dire, qui se trouve effectivement émerger comme ça dans les mobilisations politiques actuelles. Alors, évidemment, ce mouvement de réappropriation du temps, d'après Christine Ross, c'est aussi un mouvement de réappropriation de l'espace, et ça passe évidemment par justement le fait qu'on ait ces espaces à défendre là, qui sont pas des espaces, encore une fois, c'est pas l'enracinement, tu vois, c'est pas un truc où on s'identifie, c'est pas l'espace de tes aïeux, c'est pas l'espace dont t'es propriétaire de génération en génération, parce qu'en fait sur cet espace-là, en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont aussi propriétaires que toi et qui viennent de débarquer et qui vont éventuellement repartir, etc. Donc c'est pas l'espace des identitaires, si tu veux. C'est pas la terre des morts, tu vois. C'est une terre où effectivement où t'as ces ressources, donc ressources alimentaires, agricoles direct, et puis les ressources de sociabilité qui iraient avec. Alors, pour ce terme d'appropriation. Alors, je vais vite un petit peu, mais il faudrait développer là-dessus. Il reste 20 secondes, bah donc voilà, donc ça va aller vite. Alors, qu'est-ce qui peut éventuellement sur la composition, pareil. Alors voilà, des choses très intéressantes sur la manière. Ça, c'est très soulèvement aussi, très soulèvement de la terre, la manière dont effectivement on cherche à avoir des tactiques respectant des méthodes, des formes de mobilisation, des pratiques militantes différentes. Et dernier terme, donc celui de restitution. Bon, on en reparlera. En tout cas, je vous invite à lire ce livre de Christine Ross là sur la forme commune. La sous-titre La lutte comme manière d'habiter. Donc ça a été édité chez La Fabrique, ça vient de sortir, et c'est une bonne manière de comprendre l'importance que peut avoir un mouvement comme celui des soulèvements de la terre aujourd'hui. Voilà, pour résumer et pour essayer de donner envie d'aller lire ce petit livre qui est très court, hein, et qui est peut-être dense, effectivement, comme ça qu'on le commente, mais qui est très court et très, voilà, très riche, en tout cas, et que je conseille donc avec enthousiasme.
Voilà, et vous pourrez trouver donc l'émission sur le site Gurdulu, Jeudi Noir, Archives. Vous trouverez tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on revient sur l'antenne. Si on ne revient pas d'ici septembre, passez un bon été et puis à bientôt.
Marge, les enfants, tout va très très bien se passer. Vous allez monter, préparer vos bagages. On va commencer une nouvelle vie sous la mer. Là sous la mer, là sous la mer. Adieu les accusations. Bonjour les gentils poissons, là sous la mer.
Déménager sous la mer, c'est toujours ta solution à tout, ça n'arrivera pas.
Avec ton état d'esprit, ça risque pas.